Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur, troisième cassette, deuxième face, page 96. Quand la petite fille revint à la cuisine, personne ne la reconnaissait.
Pas possible que ce soit cette petite horreur de tout à l'heure, disait une domestique.
Si, c'est la même, reprit un second domestique. Elle est tout autre, car la voilà devenue jolie d'affreuse qu'elle était. C'est tout de même bien beau aux enfants, dit le cuisinier, et à Madame Darbé de l'avoir nettoyée comme cela. Quant à moi, on m'aurait donné 500 francs que je ne l'aurais pas touché.
C'est qu'elle sentait si mauvais, répondit la fille de cuisine.
Vous ne devriez pourtant pas avoir le nez si sensible, la belle, dit le cocher, avec votre graillon, vos casseroles à écurer et toutes sortes de saletés à manier.
Mon graillon et mes casseroles ne sentent toujours pas la crotte de chien, comme des gens que je connais, répondit la fille de cuisine.
Ha 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 ha, dirent les domestiques, la fille est en colère. Prends garde au balai, cocher. Si elle prend le sien, j'aurais bien trouvé le mien, et la fourche aussi. Et puis encore l'étrille. L'étrille, c'est une espèce de peigne de fer qui sert à peigner les chevaux. Allons, allons, dit le cuisinier. La poussez pas trop, elle est vive. Vous savez, faut pas l'irriter. Tiens, ben, qu'est-ce que ça me fait à moi, alors? Qu'elle se fâche, je me fâcherai aussi, dit le cocher. Ah, moi je ne veux pas de ça, dit le cuisinier. Madame n'aime pas les disputes. Il est bien certain que nous aurions tous des ennuis. Le cuisinier a raison, dit le premier domestique. Tais-toi, Thomas, le cocher. Tu nous amènes toujours quelque chose comme une dispute. Ça n'est pas ta place ici, d'abord. Va à ton écurie. Tiens, dit le cocher, ma place, elle est partout quand je n'ai pas d'ouvrage à l'écurie. Mais vous avez de l'ouvrage, reprit le cuisinier. Regardez donc Cadichon qui n'est pas encore débatté et qui se promène de long en large comme un bourgeois qui attend son dîner. Cadichon, il me fait l'effet d'écouter aux portes, dit le cuisinier, le cocher. Il est plus fin qu'il n'en a l'air, c'est un vrai malin. Le cocher m'appela, me prit par la bride, m'emmena à l'écurie, et après m'avoir ôté mon bas et m'avoir donné à manger, il me laissa seul, c'est-à-dire en compagnie des chevaux et d'un âne que je dédaignais trop pour lier conversation avec lui. Je ne sais pas ce qui se passa le soir au château. Le lendemain, dans l'après-midi, on me remit mon bas, on monta sur mon dos la petite mendiante, mes quatre petites maîtresses suivirent à pied et me firent aller au village. Je compris en route qu'elle voulait acheter de quoi habiller la petite. Thérèse voulait tout payer. Les autres voulaient payer chacune leur part. Et elle se disputait avec un tel acharnement que si je ne m'étais pas arrêté à la porte de la boutique, elle l'aurait dépassée. Elles manquèrent jeter la petite par terre en la descendant de dessus mon dos parce qu'elles s'élancèrent sur elle toutes à la fois. L'une lui tirait les jambes, l'autre la tenait par un bras, la troisième l'avait prise à bras-le-corps, et Elisabeth, la quatrième, qui était forte comme deux ou trois, les poussait toutes pour aider seule la petite à descendre. La pauvre enfant, effrayée et tiraillée de tous côtés, se mit à crier. Les passants commençaient à s'arrêter. La marchande ouvrit la porte.
Bien bonjour, mesdemoiselles. Permettez que je vous aide.
Mes jeunes maîtresses, contentes de n'avoir pas à se céder entre elles, lâchèrent la petite fille. La marchande la prit et la posa à terre.
Qu'y a-t-il pour votre service, mesdemoiselles? Dit la marchande. Madeleine, nous venons acheter de quoi habiller cette petite fille, madame Juchet. Volontiers, mesdemoiselles. Vous faut-il une robe ou une jupe ou du linge? Camille, il nous faut tout, madame Juchet. Donnez-moi de quoi lui faire trois chemises, un jupon, une robe, un tablier, un fichu, deux bonnets. Thérèse, plus bas. Dis donc, Camille, Laisse-moi parler, puisque c'est moi qui paie. Caniba, non, Thérèse, tu ne paieras pas tout. Nous voulons payer avec toi. Thérèse, j'aime mieux payer seule, c'est ma fille. Non, elle est à nous tous, répliqua Camille. Quel est l'étoffe que prennent ces demoiselles ? Interrompit la marchande, impatiente de vendre.
Pendant que Camille et Thérèse continuaient leur dispute à voix basse, Madeleine et Elisabeth se dépêchaient d'acheter tout ce qu'il fallait.
Adieu, Madame Juchet, dirent-elles. Envoyez-nous tout cela chez nous, et le plus vite possible, je vous en prie, vous enverrez aussi la note. Comment, comment ? Vous avez déjà tout acheté ? S'écrièrent Camille et Thérèse. Mais oui, pendant que vous causiez, dit Madeleine d'un air malin, nous avons choisi tout ce qui est nécessaire. Il fallait nous demander si cela nous convenait, reprit Camille. Certainement, puisque c'est moi qui paie, dit Thérèse. Nous paierons aussi, nous paierons aussi, s'écrièrent en chœur les trois autres. Pour combien y en a-t-il ? Demanda Thérèse. Pour 730 francs, mademoiselle. 730 francs, s'écria Thérèse effrayée. Mais je n'ai que 500 francs. Camille, eh bien, nous paierons le reste. Elisabeth, tant mieux. Cela fait que nous aurons aussi habillé la petite fille. Madame riant. Ah, nous voilà enfin d'accord, grâce à Madame Juchet. Ce n'est pas sans peine.
J'avais tout entendu, puisque la porte était restée ouverte. J'étais indigné contre Madame Juchet qui faisait payer à mes bonnes petites maîtresses le double au moins de ce que valaient ces marchandises. J'espérais que les mamans ne les laisseraient pas faire le marché. Nous retournâmes à la maison. Tout le monde fut d'accord en revenant, grâce à Madame Juchet, comme avait dit innocemment Madeleine. Il faisait beau temps. On était assis sur l'herbe devant la maison quand nous arrivâmes. Pierre, Henri, Louis et Jacques avaient pêché dans un des étangs pendant que nous étions au village. Ils venaient de rapporter trois beaux poissons et beaucoup de petits. Pendant que Louis et Jacques m'ôtaient mon bas et ma bride, les quatre cousines expliquèrent à leur maman ce qu'elles avaient acheté.
« Pour combien d'argent en avez-vous ? » demanda la maman de Thérèse. « Combien te reste-t-il de tes 500 francs, Thérèse ?»
Thérèse fut un peu embarrassée. Elle rougit légèrement.
« Il ne me reste rien, maman, dit-elle. 500 francs pour habiller un enfant ?» De 6 à 7 ans, dit la maman de Camille, mais c'est horriblement cher. Qu'avez-vous donc acheté ?
Thérèse ne savait seulement pas ce que Madeleine et Elisabeth s'étaient dépêchées d'acheter, de sorte qu'elle ne put pas répondre. Mais la marchande, arrivant avec son paquet, interrompit la conversation à la grande joie de Madeleine et d'Elisabeth, qui commençaient à craindre d'avoir acheté des choses trop belles et trop chères.
Bonjour, Madame Juchet, dit la grand-mère. « Défaites votre paquet ici sur l'herbe et faites-nous voir les emplettes de cette demoiselle. »
Madame Juchet salua, posa son paquet, le défit, en tira la note qu'elle présenta à Madeleine et étala ses marchandises. Madeleine avait rougi en prenant la note. Sa grand-mère la lui prit des mains et poussa une exclamation de surprise.
« Oh, 730 francs pour habiller une petite mendiante, Madame Juchet !» ajouta-t-elle d'un ton sévère. Vous avez abusé de l'ignorance de mes petites filles. Vous savez très bien que les étoffes que vous apportez sont beaucoup trop belles et trop chères pour habiller une enfant pauvre. Remportez tout cela. Et sachez qu'à l'avenir, aucune de nous n'achètera rien chez vous. Madame, dit Madame Juchet avec une colère revenue, ces demoiselles ont pris ce qu'elles ont voulu. Je ne les ai contraintes sur aucun article. Mais vous auriez dû leur montrer que des étoffes convenables et ne pas chercher à leur passer vos vieilles marchandises dont personne ne veut. Madame, ces demoiselles ayant pris les étoffes doivent les payer. Elles ne paieront rien du tout, et vous allez remporter tout cela, dit la grand-mère avec sévérité. Partez sur le champ. J'enverrai ma femme de chambre acheter chez Madame Jourdan ce qui est nécessaire.
Madame Juchet se retira dans une colère effroyable. Je la reconduisis à un bout de chemin, en brayant d'un air moqueur et en gambadant autour d'elle, ce qui amusa beaucoup les enfants, mais ce qui lui fit grand peur, car elle se sentait coupable et elle craignait que je voulusse en punir. On me croyait un peu sorcier dans le pays et tous les méchants avaient peur de moi. Les mamans grondèrent les enfants Les cousins se moquèrent d'elle. Je restai près d'eux, mangeant de l'herbe et les regardant sauter, courir et gambader. J'entendis pendant ce temps que les papas arrangeaient une partie de chasse pour le lendemain, que Pierre et Henri devaient avoir de petits fusils pour être de la partie et qu'un jeune voisin de campagne, Auguste, devait y venir aussi. Chapitre 15. La chasse. Le lendemain devait avoir lieu, comme je l'ai dit, l'ouverture de la chasse. Pierre et Henri furent prêts avant tout le monde. C'était leur début. Ils avaient leurs fusils en bandoulière, leur carnassière passée sur l'épaule, leurs yeux brillaient de bonheur, ils avaient pris un air fier et batailleur qui semblait dire que tout le gibier du pays devait tomber sous leur coup. Je les suivis de loin et je vis les préparatifs de la chasse. Pierre, dit Henri d'un air délibéré, quand nos carnassières, c'est le sac où on met le gibier, seront pleines, où mettrons-nous le gibier que nous tuerons? C'est précisément à quoi je pensais, répondit Pierre. Je demanderai à papa d'emmener Cadichon. Cette idée ne me plut pas. Je savais que les jeunes chasseurs tiraient partout et surtout, sans s'occuper de ce qui était devant eux et près d'eux. En visant une perdrix, ils pouvaient m'envoyer leur plomb et j'attendis avec inquiétude la suite de la proposition. Papa, dit Pierre à son père qui arrivait, pouvons-nous emmener Cadichon?
Pourquoi faire? Répondit le papa en riant. Tu veux donc chasser à âne et poursuivre les perdrix à la course? Dans ce cas, il faut d'abord attacher des ailes à Cadichon.
Mais non, papa, dit Henri contrarié, c'est pour porter notre gibier quand nos carnassières seront trop pleines.
Portez votre gibier, dit le papa en riant. Mais vous croyez donc, pauvres innocents, que vous allez tuer quelque chose et même beaucoup de choses?
Certainement, papa, dit Henri. J'ai 20 cartouches dans ma veste et je tuerai au moins 15 bêtes.
Elle est bonne celle-là. Sais-tu ce que vous tuerez, vous deux et votre ami Auguste?
Quoi donc, papa?
Le temps et rien avec.
Tuer le temps, ça veut dire passer le temps.
Alors, papa, je ne sais pas pourquoi vous nous avez donné des fusils et pourquoi vous nous faites aller à la chasse si vous nous croyez assez sots et assez maladroits pour ne rien tuer. C'est pour vous apprendre à chasser, petit nigaud, que je vous fais aller à la chasse. On ne tue jamais rien les premières fois.
La conversation fut interrompue par l'arrivée d'Auguste, prêt aussi à tuer tout ce qu'il rencontrerait. Pierre et Henri étaient encore rouges d'indignation quand Auguste les rejoignit. Pierre s'écria.
Papa croit que nous ne tuerons rien, Auguste. Nous lui ferons voir que nous sommes plus adroits qu'il ne le pense.
Sois tranquille, répondit Auguste. Nous tuerons plus de gibier qu'eux.
Tiens, pourquoi plus qu'eux?
Parce que nous sommes jeunes, vifs, lestes et adroits, tandis que nos papas sont déjà un peu vieux.
Ah, c'est vrai cela, dit Henri. Papa a 42 ans. Pierre en a 15 et moi 13. Quelle différence!
Et mon papa à moi donc, dit Auguste, il a 43 ans et moi qui en ai 14.
Écoute, dit Pierre, je vais, sans le lui dire, faire mettre à Cadichon le bât avec les paniers. Il nous suivra et nous lui ferons porter notre gibier.
Bien, très bien! Fais mettre les grands paniers, très grands. Si nous tuons un chevreuil, il lui faudra une fameuse place.
Henri fut chargé de la commission. Je riais sous cap de la prévoyance. J'étais bien sûr de ne pas avoir la charge d'un chevreuil et de revenir avec les paniers vides comme au départ.
En route, dirent les papas. Nous marcherons devant et vous, les gamins, suivez de près. Quand nous serons en plaine, nous nous débanderons. est-ce donc ? Ajouta le papa de Pierre avec surprise. Cadichon nous suit ? Cadichon orné de deux énormes paniers. Ha ha, c'est pour le gibier de ces petits messieurs, dit le garde-chasse en riant. Ha 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 ha, dit le papa, ils ont voulu faire à leur tête, soit. Je veux bien que Cadichon suive la chasse s'il a du temps à perdre.
Il regarda en souriant Pierre et Henri qui prirent un air dégagé. Ton fusil est-il armé, Pierre ? Demanda Henri.
Non, pas encore. C'est si dur à armer et à désarmer que j'aime mieux attendre qu'une perdrix parte.
Nous voici en plaine, dit le papa. À présent, marchons tous sur la même ligne et tirons bien devant nous, pas à droite ni à gauche pour ne pas nous entretuer.
Les perdrix ne tardèrent pas à partir de tous les côtés. J'étais resté prudemment derrière et même un peu loin. Je fis bien, car plus d'un chien retardataire reçut des grains de plomb. Les chiens guettaient, arrêtaient, rapportaient. Les coups de fusil partaient sur toute la ligne. Pan, 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 pan. Je ne perdais pas de vue mes trois jeunes vantards. Je les voyais tirer souvent, mais ramasser jamais. Aucun des trois ne toucha ni lièvre ni perdrix. Ils s'impatientaient, tiraient hors de portée, trop loin, trop près. Quelquefois, tous les trois tiraient la même perdrix, qui n'en volait que mieux. Les papas faisaient au contraire de la bonne besogne. Autant de coups de fusil, autant de pièces dans leur carnassière. Après 2 heures de chasse, le papa de Pierre et d'Henri s'approcha d'eux.
« Eh bien, mes enfants, Cadichon est-il bien chargé ? Y a-t-il encore un peu de place pour vider ma carnassière qui est trop pleine ?»
Les enfants ne répondirent pas. Ils voyaient à l'air moqueur de leur papa qu'ils savaient leur maladresse. Moi, j'approchai en courant et je tournai un des paniers vers le papa.
« Comment ? Rien dedans ? Dit le papa. « Mais vos carnassières vont crever si vous les emplissez trop !»
Les carnassières, elles étaient plates et vides. Le papa se mit à rire de l'air déconfit des jeunes chasseurs, se débarrassa de son gibier dans un des paniers et retourna à son chien qui était en arrêt.
« Je crois bien, dit Auguste, que t'en perds-tu une quantité de perdreaux. Il a 2 chiens qui arrêtent et qui rapportent. Et nous, on ne nous en a pas laissé un seul. »
C'est vrai, ça, dit Henri.
Nous avons peut-être tué beaucoup de perdrix, seulement nous n'avons pas de chien pour nous les rapporter.
Ah, dit Pierre, pourtant je n'en ai pas vu tomber.
Mais parce qu'une perdrix tuée ne tombe jamais sur le coup, dit Auguste. Elle vole encore quelque temps et elle va tomber très loin.
Mais quand papa et mes oncles tirent, dit Pierre, leur perdrix tombe tout de suite.
Ça te semble ainsi parce que tu es loin, mais si tu étais à leur place, tu verrais filer la perdrix longtemps encore.
Pierre ne répondit pas, mais il n'avait pas trop l'air de croire ce que disait Auguste. Tous marchaient d'un pas moins fier et moins léger qu'au départ. Ils commençaient à demander l'heure.
« J'ai faim !» dit Henri.
J'ai soif, dit Auguste.
Je suis fatigué, dit Pierre.
Mais il fallait bien suivre les chasseurs qui tiraient, tuaient et s'amusaient. Pourtant, ils n'oubliaient pas leurs jeunes compagnons de chasse, et pour ne pas trop les fatiguer, ils proposèrent une halte pour déjeuner. Les jeunes gens acceptèrent avec joie. On rappela les chiens qu'on remit en laisse, et l'on se dirigea vers une ferme qui était à 100 pas, et où la grand-mère avait envoyé des provisions. On s'assit par terre, sous un vieux chêne, on étala le contenu des paniers. Il y avait là, comme à toutes les chasses, un pâté de volaille, un jambon, des œufs durs, du fromage, des marmelades, des confitures, un gros baba, une énorme brioche et quelques bouteilles de vieux vin. Tous les chasseurs, jeunes et vieux, avaient grand appétit et mangèrent à effrayer les passants. Pourtant, la grand-mère avait si largement pourvu aux faims les plus voraces que la moitié des provisions restèrent aux gardes et aux gens de la ferme. Les chiens avaient la soupe pour apaiser leur faim et l'eau de la mare pour se désaltérer.
« Vous n'avez donc pas été heureux, les enfants, » dit le papa d'Auguste. « Cadichon ne marchait pas comme un âne trop chargé. »
« Ce n'est pas étonnant, papa, » dit Auguste. « Nous n'avions pas de chiens, vous les aviez tous. »
« Ah, tu crois qu'un, deux ou trois chiens, » dit le papa d'Auguste, « vous aurait fait tuer des perdreaux qui vous passaient sous le nez ?»«
Ils ne les auraient pas fait tuer, papa, mais ils auraient cherché et rapporté ceux que nous aurions tués. Et alors,
ceux que vous avez tués, » dit son père d'un air surpris, « vous croyez vraiment avoir tué des perdreaux ?»«
Certainement, papa. » Seulement, comme nous ne les voyions pas tomber, nous ne pouvions pas les ramasser.
Et tu crois que s'il en était tombé, vous ne les auriez pas vus?
Non, parce que nous n'avons pas d'aussi bons yeux que les chiens.
Le père, les oncles, les gardes même, partirent d'un éclat de rire qui rendit les enfants rouges de colère.
C'est ridicule!
« Écoutez, dit enfin le papa de Pierre et d'Henri, puisque vous dites que c'est la faute des chiens que votre gibier a été perdu, vous allez avoir chacun le vôtre quand nous nous remettrons en chasse. »«
Mais les chiens ne voudront pas nous suivre, papa, dit Pierre. Ils ne nous connaissent pas autant que vous. »«
Bon, pour les obliger à vous suivre, nous vous donnerons les deux gardes et nous ne partirons qu'une demi-heure après vous, afin que les chiens n'aient pas la tentation de nous rejoindre.
Oh, merci, papa, dit Pierre. À la bonne heure, avec les chiens, nous sommes bien sûrs de tuer autant que vous. Le déjeuner finissait. On était reposés, et les jeunes chasseurs étaient pressés de se remettre en chasse avec les chiens et les gardes.
Nous allons avoir l'air de vrais chasseurs, dirent-ils d'un air satisfait.
Les voilà parti encore une fois, et moi, suivant comme avant le déjeuner, mais toujours de loin, par prudence. Les papas avaient dit aux gardes de marcher près des enfants et d'empêcher toute imprudence. Les perdrix partaient de tous côtés, comme le matin, et les jeunes gens tiraient comme le matin, pan, 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 et ne tuaient rien, comme le matin. Pourtant, les chiens faisaient bien leur office. Ils quêtaient, c'est-à-dire ils cherchaient le gibier. Ils arrêtaient, c'est-à-dire ils se mettaient arrêtés, la patte en l'air, le nez dans la direction du gibier quand ils avaient vu une perdrix. Seulement, ils ne rapportaient pas puisqu'il n'y avait rien à rapporter. Enfin, Auguste, impatienté de tirer sans tuer, voit un des chiens en arrêt. Il croit qu'en tirant avant que la perdrix parte, il tuera plus facilement. Il vise, il tire, pan ! Le chien tombe en se débattant et en poussant un cri de douleur.
Corbleu, c'est notre meilleur chien ! S'écria le garde en s'élançant vers lui.
Quand il arriva, le chien expirait. Le coup l'avait frappé à la tête. Il était sans mouvement et sans vie.
« Voilà un beau coup que vous avez fait là, monsieur Auguste !» dit le garde en laissant retomber le pauvre animal. « Je crois bien que voilà la chasse finie !»
Auguste restait immobile et consterné. Pierre et Henri étaient très émus de la mort du chien. Le garde concentrait sa colère et le regardait sans mot dire. J'approchai pour voir quelle était la malheureuse victime de la maladresse et de l'amour-propre d'Auguste. Quelle ne fut pas ma douleur en reconnaissant Médor, mon ami, mon meilleur ami, et quelles ne furent pas mon horreur et mon chagrin quand je vis le garde relever Médor et le poser dans un des paniers que je portais sur mon dos. Voilà donc le gibier que j'étais condamné à rapporter. Médor, mon ami, tué par un mauvais garçon, maladroit et orgueilleux. Nous retournâmes du côté de la ferme, les enfants ne parlant pas,
le garde laissant échapper de temps à autre un juron furieux, et moi ne trouvant de consolation que dans la réprimande sévère et l'humiliation que le meurtrier aurait à subir. En arrivant à la ferme, nous y trouvâmes encore les chasseurs qui, n'ayant plus de chiens, préféraient se reposer et attendre le retour des enfants.
« Déjà ?» s'écrièrent-ils en nous voyant venir. « Je crois en vérité qu'ils ont tué une grosse pièce, » dit le papa de Pierre. « Cadichon marche comme s'il était chargé, et à des paniers penche comme s'il contenait quelque chose de lourd. »
Ils se levèrent et vinrent à nous. Les enfants restaient en arrière. Leur mine confuse frappa ces messieurs.
« Ha ha ! Ha ha ! » dit le père d'Auguste. « Ils n'ont pas l'air de triomphateurs. Ho ho ! Ho ho ! Ils ont peut-être tué un veau ou un mouton, » dit le père de Pierre. « Et ils l'ont pris pour un lapin. »
Le garde approcha.
« Qu'y as-tu donc, Michaud ? Tu as l'air aussi penaud que les chasseurs. » « C'est qu'il y a de quoi, monsieur ? » répondit le garde. « Nous rapportons un triste gibier. »« Ha ha ! Qu'est-ce que c'est donc ?» dit le papa. « Un mouton, un veau, un âneau, un cochon ?»« Ah, monsieur, il n'y a pas de quoi rire, allez. C'est votre chien Médor, le meilleur de la bande, que monsieur Auguste a tué en le prenant pour une perdrix. »« Médor, le maladroit !» dit le papa. « Si jamais il revient chasser ici !»
« Approchez, Auguste, lui dit son père. Voilà donc où vous ont mené votre sot orgueil et votre ridicule présomption. Faites vos adieux à vos amis. Monsieur, vous allez retourner sur l'heure à la maison et vous porterez votre fusil dans ma chambre pour n'y plus toucher jusqu'à ce que vous ayez pris de la raison et de la modestie.
« Mais papa, répondit Auguste d'un air dégagé, je ne sais pas pourquoi vous êtes si fâché. » Il arrive très souvent qu'on tue des chiens à la chasse.
Des chiens ? On tue des chiens ? S'écria le père stupéfait. En vérité, c'est trop fort. Mais où avez-vous pris ces belles notions de chasse, monsieur ?
Mais papa, dit Auguste toujours du même air dégagé, tout le monde sait qu'il arrive très souvent aux grands chasseurs de tuer des chiens.
Mes chers amis, dit le père en se retournant vers ces messieurs, veuillez m'excuser de vous avoir amené un garçon mal élevé comme Auguste. Je ne croyais pas qu'il fût capable de tant d'impudence et de sottise. Puis se retournant vers son fils, « Vous avez entendu mes ordres, monsieur. Allez !»«
Mais papa !»«
Silence, vous dis-je. Pas un mot, si vous ne voulez pas que votre derrière fasse connaissance avec la baguette de mon fusil. »
Auguste baissa la tête et se retira tout confus. Fin de la deuxième piste de la troisième cassette, page 115, Les mémoires d'un âne, par la comtesse de Ségur.